Alors, quand on parle de vente sociale, on dit souvent qu'il faut convaincre les élus, David. Pourquoi ?
Alors, c'est vrai que, d'abord, un patrimoine, il n'est jamais hors sol. Il est toujours sur un territoire, oui, avec des habitants, etc. On a dit que dans un des critères, justement, d'acquisition, c'était la dynamique du territoire, etc. Et donc, sur les territoires, il y a forcément des élus. Bien sûr. Et ces élus, ils sont incontournables. Dans la vente HLM, on a un acteur majeur qui est le préfet. C'est celui qui autorise l'avantage HLM, parce que c'est peut-être une précision, mais je pense que nos auditeurs et spectateurs le savent, c'est-à-dire que pour faire de l'avantage HLM, faire de la vente sociale, il faut une autorisation. Bon. Cette autorisation, elle est donnée par le préfet, mais souvent, l'avis du maire compte. Bon. Et on s'aperçoit, nous, quand même, il y a un mouvement qui existe où aujourd'hui, on a des élus qui craignent la vente sociale. Ils la craignent parce qu'ils redoutent potentiellement des copropriétés dégradées. Ils redoutent évidemment de voir fondre leur quota de logements sociaux dans le cadre de la loi SRU. Bon, voilà, il y a un certain nombre de manifestations chez eux où parfois la vente sociale n'est pas complètement bien accueillie. Bon. Et ils craignent aussi parfois les investisseurs spéculateurs, c'est-à-dire ceux qui viendraient acheter pour derrière faire des plus-values à la revente en ayant acheté évidemment des logements sociaux pas chers. Là-dessus, avant que Florence n'intervienne sur le sujet, je crois, c'est de rappeler deux choses. Un, dans le logement social, il n'y a quasiment pas de copropriété dégradée. Donc ça, il faut évidemment sans doute le souligner. Et puis, Pascal l'a dit tout à l'heure, et on l'a rappelé, je crois, tout au long de cette émission, la vente sociale, elle est très, très, très encadrée. Donc, il n'y a pas d'investisseurs, spéculateurs, etc. Je rappelle juste, mais j'imagine que nos auditeurs ou spectateurs le savent, c'est qu'on ne peut acheter dans notre vie qu'un seul logement social. Donc, on ne peut pas...
C'est important de le rappeler.
Oui, on ne peut pas se faire un patrimoine sur le dos, on va dire, des bailleurs sociaux. Ouais. Et ça, là-dessus, nos partenaires notaires, sont extrêmement, évidemment, vigilants. Bien. Voilà.
Alors justement, pour rebondir sur ça, Florence, David vient d'évoquer le sujet qui préoccupe, qui peut faire peur, qui peut effrayer les maires au moment d'autoriser les ventes sociales. On en parle aussi beaucoup dans l'actualité avec une loi qui est passée, le risque de copropriété dégradée. Que répondez-vous aux maires justement à ce sujet ?
Alors c'est vrai que quand on rencontre les maires, c'est une inquiétude qu'on rencontre très souvent. Et pour mettre en perspective, l'ONV, sur son cycle d'activité, prévoit d'acquérir 40 000 logements à horizon 2035. 40 000 logements, ça veut dire qu'on va créer 800 copropriétés. Donc c'est beaucoup quand même à l'échelle d'un secteur. Donc c'est évidemment une préoccupation légitime de la part des élus. Et pour nous, c'est une préoccupation majeure que ces copropriétés que l'on crée quasiment quotidiennement, elles soient saines dans leur fonctionnement au fil des années. Donc on porte une responsabilité sur ce sujet-là, c'est indéniable. Vous avez parlé de la loi sur les copropriétés dégradées. Ça permet de poser, et David l'a dit, que le monde HLM aujourd'hui n'est pas pourvoyeur de copropriétés dégradées. De l'accession sociale à la propriété dans le neuf, de la vente HLM, on en fait depuis des décennies et il n'y a pas de sujet majeur de création de copropriétés dégradées par le secteur HLM. C'est même plutôt le contraire, comme on le voit à travers la loi récente que vous avez évoquée, où le secteur HLM est plutôt appelé à la rescousse de situations qui sont plus majoritairement le fait de l'habitat privé. Donc, à l'ONV, on n'entend pas devenir producteur de copropriétés dégradées. Et c'est donc une vigilance constante chez nous sur l'ensemble de notre chaîne de valeur, depuis l'acquisition jusqu'à la cession et pendant la période de portage. Donc, la stratégie que l'on a mise en place sur ce sujet et que l'on expose régulièrement aux élus sont d'abord les choix qui sont très structurants dans notre organisation et notre modèle que l'on a évoqué déjà au cours de ce moment, c'est-à-dire une sélection très vigilante des patrimoines que l'on achète, avec un cycle de travaux important, si besoin, comme l'a décrit également Aude, tout le dispositif de sécurisation des accédants qui est inhérent à la vente HLM dont Pascal a parlé, et puis l'accompagnement à la formation, à leur futur rôle de copropriétaire, et ça c'est vraiment central chez nous dans notre dispositif. Et puis après, sur le volet de la copropriété, on a fait des choix qui nous sont propres, mais dans lesquels on croit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on le peut, on va aller sélectionner des syndics qui sont issus du monde HLM, puisque l'ONV n'est pas lui-même syndic. Donc quand on crée une copropriété, on doit désigner un syndic.
Et
on
s'appuie. Et le rôle du syndic est primordial.
Hein. Exactement. C'est vraiment l'acteur central de la copropriété. Et donc ça, c'est la colonne vertébrale de notre dispositif. Et à chaque fois que l'on peut, on choisit un syndic issu du monde du logement social et qui travaille dans le respect des valeurs du syndic social et solidaire. Nous-mêmes, on a mis en place une charte du syndic responsable sur laquelle on s'appuie et qui reprend ses engagements et ses valeurs. On audite aussi en interne régulièrement la qualité de nos syndics. Donc tout ça pour dire que sur la question des syndics et de la qualité de service qu'ils délivrent, on est exigeant et on est vigilant. Et ensuite, on a également une politique de prévention, puisque c'est mieux de prévenir par essence, sur un certain nombre d'indicateurs que l'on suit, qui sont calés sur des indicateurs qui sont mis en place également par l'ANA, sur la détection de la fragilisation des copropriétés. Donc on s'assure d'indicateurs qui sont assez classiques, hein, mais qui portent sur l'impayé éventuel d'une copropriété. Comment est-ce que fonctionne sa gouvernance? Est-ce que quand la copropriété doit voter des travaux, elle le fait? Voilà, donc on s'est penché très très vite sur ce sujet. Aujourd'hui, c'est un sujet qui doit encore vivre, hein, puisque l'ONV n'a que 5 ans et que l'avenir de nos copropriétés est vraiment devant nous. Donc les années qui viennent là vont être majeures, mais on est complètement mobilisés, en tout cas pour rassurer les élus et nos accédants sur ce sujet-là.
Alors l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, hein, je
Exactement.
Précise. Petite question peut-être pour rebondir sur la stratégie que vous évoquiez, hein, par rapport aux élus, à l'approche des municipales. Bon, ce sera en 2026, mais 2026 c'est demain. Est-ce que cette stratégie, vous l'a modifié un petit peu? Est-ce que vous êtes amené à l'intensifier?
Alors aujourd'hui, on a un socle stratégique qui est déjà assez solide. Ce qui est certain, c'est que dans des contextes politiques qui évoluent, ce sont des discours de conviction, de bonnes paroles à aller porter, qui sont évidemment sans cesse renouvelés.
Oui, sur ce point, il y a peut-être un commentaire à faire. C'est vrai qu'il y avait une loi, la fameuse loi logement là, qui avait été lancée, bon, qui a été évidemment...
Début juin à l'Assemblée nationale.
Début juin, et qui, évidemment, compte tenu du contexte politique, est désormais en stand-by. Mais il y a une partie du dispositif de la logement qui redonnait aussi un tout petit peu plus de pouvoir, notamment sur les autorisations de vente HLM, ou enfin, en tout cas de vente sociale, aux maires. Donc ça veut bien dire que la préoccupation, c'était de se dire qu'il fallait qu'on replace en fait le maire au cœur du dispositif, même si, d'une manière générale, il l'a toujours été.
Oui, il l'est plus ou moins, mais là, c'était vraiment
l'asseoir
dans ses responsabilités.
Oui, complètement. Et puis, il y a un autre thème aussi qui revient du côté des élus, et ça me donne l'occasion de pouvoir en partie répondre peut-être à la question de Mylène, qui dit: est-ce que l'ONV pratique l'acquisition ou la revente sociale sous la forme de bail réel solidaire, donc le fameux BRS. C'est vrai que du côté des élus, il y a un engouement sur ce dispositif-là.
Alors, vous pourrez nous rappeler ce que c'est, pour rappeler à nos auditeurs?
Alors, le BRS, en fait, c'est un dispositif qui permet de faire de la vente en faisant une dissociation entre le foncier et
le bâti.
Voilà. Oui. Et donc, c'est un dispositif qui est très encadré. Au départ, c'est un dispositif qui était plutôt, d'ailleurs, dédié dans le neuf. On l'a essayé de tordre et qu'on essaye d'adapter un peu à la vente sociale, mais qui n'est pas complètement adapté. Donc il y a des choses sur lesquelles on se pose encore un certain nombre de questions, en tout cas au sein de l'ONV. Mais la principale vertu qui voient les maires, c'est le fait d'avoir un dispositif où, un, on maintient le quota de vente, de logements sociaux sur son territoire, et puis on a un dispositif qui est un dispositif où on permet davantage de solvabiliser évidemment les acquéreurs, et tout en évitant le risque de spéculation, etc., etc. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai engouement. On a assez peu de recul sur ce dispositif-là.
Parce que c'est assez récent. Hein,
c'est assez récent. Et surtout, c'est assez récent de l'utiliser pour faire de la vente sociale. Ouais. Donc là-dessus, on est en train, effectivement, nous, de s'interroger. Mais peut-être que Aude peut compléter ce point, puisque je sais qu'elle y a travaillé. Mais tout le monde est invité, évidemment, à le compléter.
Alors oui, effectivement, on a commencé à y réfléchir. Mais comme le dit David, c'est un dispositif récent. Donc on tord un peu pour l'adapter à de la vente sociale. Et puis on a surtout remarqué que l'utilisation resterait, en tout cas pour nous, marginale et plutôt sur des zones ultra tendues.
Oui, où le foncier est très cher. En fait, c'est là l'avantage de ce dispositif.
Hein. Effectivement. Voilà. Après, il faut aussi avoir conscience que c'est vraiment un dispositif poussé plus par les collectivités que par les bailleurs eux-mêmes. Hein, on parlait justement de freins tout à l'heure à la vente sociale, donc avec effectivement pas mal de territoires qui sont vraiment défavorables à la vente sociale.
Mmh. Une autre petite réaction sur le BRS
Non. Ah bah, très clairement, moi, tous les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour accompagner des locataires occupants dans leur parcours résidentiel est bon à prendre. Donc, bon, comme le disait Aude et David, il y a encore des adaptations à faire sur cet outil. On espère à l'ONV rapidement pouvoir faire une première expérimentation et pouvoir accompagner des locataires justement dans le cadre de leur parcours résidentiel sur cette offre qui va permettre, en dissociant justement le bâti du foncier, de proposer des logements encore plus accessibles financièrement à nos locataires.
Mmh. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, David, sur le chat, justement ? Je rappelle que c'est le moment de les poser, on y répond tout de suite.
Eh bien, écoutez, les auditeurs et les spectateurs ne sont pas très bavards.
Alors, c'est qu'on a été clair.
Ouais, soit on a été clair, soit on a été, je ne sais pas, trop bavard.
Alors, peut-être Robin Rivaton, qui est encore avec nous, peut-être votre avis sur le BRS. C'est vrai qu'on vous a pas posé la question. C'est un modèle assez anglo-saxon, hein, ça plaît beaucoup en Angleterre. Justement, son introduction en France, selon vous, est-ce que ça pourrait aider à favoriser l'accession ?
Alors, le contexte de crise du logement dans lequel nous sommes, toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre. Le BRS en fait sans doute partie. Mais je pense qu'il y a un décalage entre les promesses attendues de ce dispositif et ce qu'il en ressortira réellement. Aujourd'hui, les BRS, les baux réels solidaires livrés en 2023 s'élevaient à 4000, ce qui est un chiffre honorable, hein, mais je rappelle que sur la production de logements neufs, on est sur un décalage. On a perdu 150 000 logements en l'espace de 3-4 ans, donc on voit bien qu'on est c'est pas la solution ou la baguette magique qui va résoudre tous nos problèmes. Et puis, le BRS, le bail réel solidaire, cette dissociation entre le bâti et le foncier, c'est une idée qui a été très, très largement explorée dans beaucoup de pays à travers beaucoup de modèles, qui est une idée qui est séduisante sur le papier et qui fonctionne bien si la collectivité ou la puissance publique, en tout cas l'opérateur public qui représente l'intérêt général, qui va être le porteur du foncier, peut en récupérer la propriété réellement à un moment. Et donc, en récupérer la propriété réelle, ça signifie dans un horizon de temps qui soit raisonnable. Aujourd'hui, quand on voit des baux réels solidaires de 99 ans rechargeables une fois ou plusieurs fois, comme ça existe en France, il n'y a pas de possibilité pour la puissance publique de récupérer le terrain. Et donc, on est dans un simple mécanisme de subvention où la puissance publique va tout simplement subventionner un bien pour des occupants qui vont pouvoir l'occuper pendant une durée. Et personne ne raisonne à 99 ans dans nos sociétés. Quand vous avez un droit à 99 ans, c'est un droit quasi réel et quasi certain. Donc aujourd'hui, on a un vrai équilibre à trouver dans ce mécanisme-là, entre le côté séduisant et attractif et le fait que l'outil puisse vraiment servir les intérêts de l'intérêt général et pas seulement les intérêts des heureux chanceux qui peuvent rentrer dans ce dispositif avec des prix décotés. Et c'est toujours un sujet extrêmement délicat puisque la reprise du foncier est très compliquée. Quand vous avez quelqu'un qui est dans les murs, dire on va racheter les murs à une valeur résiduelle parce qu'ils ont été largement amortis, et on va reprendre la propriété du foncier, ça crée des blocages très très forts. Et je soulignerai juste que le pays qui est peut-être l'inventeur de la dissociation entre le bâti et le foncier, puisqu'elle a été mise en place lors de l'invasion des Normands de l'Angleterre en 1066, au moment où Guillaume le Conquérant a divisé les terres britanniques pour les donner à ses lieutenants. Ça s'est poursuivi à travers une longue chaîne pendant un millénaire. Aujourd'hui, vous avez 20-25% des biens immobiliers britanniques qui sont soumis au régime du leasehold. C'est autrement dit, ils ne sont pas propriétaires du terrain sur lequel est bâti le logement. Et le gouvernement, en tout cas au Parlement britannique, il y a actuellement une loi pour supprimer cette existence du régime du leasehold et remettre tout sous le régime du freehold, donc remembrer la dissociation entre le bâti et le foncier. Donc je comprends qu'on est à la recherche de solutions et il faut les explorer, mais il faut garder raison gardée et ne pas se précipiter sur des choses qui ne peuvent pas être massifiées. Un mot de conclusion, je pense que on l'a dit, la France, j'ai envie de dire, la France n'a pas encore connu la crise du logement, et c'est là où les choses sont assez terribles, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des situations du logement très très dures, très difficiles, et en réalité on va rentrer dans le dur d'un point de vue macro dans les prochaines années, tout simplement parce que on a ce décrochage de la production de logements qui est très très forte, on va passer de 400 000 à 250 000, qui fait que ces 150 000 logements en moins chaque année auront des répercussions avérées dans un marché où la demande reste forte, une demande qui reste forte liée à une concentration de la population dans les zones les plus tendues, liée à la décohabitation, donc au fait que les gens vivent de plus en plus seuls, et liée à un dynamisme démographique, même s'il est en train de se réduire effectivement parce qu'il y a une baisse des naissances, mais il y a toujours un excédent démographique dans les zones les plus tendues. Si je répète souvent ce chiffre, mais vous avez 80 000 naissances de plus que les décès en Île-de-France, vous avez 80 000 décès de plus que les naissances dans le reste de la France. Donc on voit bien que ces facteurs font qu'on a une demande qui est très forte, on a une offre qui est en très très forte réduction, donc on va rentrer dans une crise du logement, on va encore avoir plus de mal que l'on a eu à satisfaire les souhaits ou les desiderata d'accession à la propriété de sa résidence principale, et je pense que l'on a un levier, un outil très puissant, le logement social à la française est un outil absolument indispensable, c'est quelque chose qui a fait ses preuves, qui a permis de maintenir les loyers. Il y a plein de choses à améliorer, c'est sûr, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses très positives qui ressortent de cette industrie, et je pense que la cession du patrimoine à ses occupants est un outil qui doit permettre à la fois de produire des ressources pour les opérateurs et à la fois de permettre de satisfaire ses souhaits ou ses désirata d'accession à résidence principale, notamment pour des ménages de classe moyenne et modeste qui vont être quand même les principales victimes de la disparition de certains modes d'habitat, notamment du pavillonnaire. Merci beaucoup pour votre invitation.
Merci beaucoup, et Robin Rivaton.
Une bonne journée.
Merci d'avoir été notre grand témoin tout au long de ce webinaire. Le mot de la fin, ça va être avec vous, David, pour conclure.
Oui, alors je veux simplement dire à un Bertrand qui a posé une question, mais qui concerne directement en fait l'ONV, de savoir si on est capable de faire par exemple de l'expérimentation sur de l'achat à l'unité, de petits blocs reconventionnés, etc. On le contactera évidemment puisqu'on a son adresse mail et donc on lui répondra directement. En guise de conclusion, moi je voulais simplement vous dire que on vient de voir au travers de cette émission que le désir de propriété, il est profondément enraciné vraiment dans la culture française. Parce que, c'est une idée auquel je crois évidemment lorsque j'ai pris les rênes de cet outil un peu innovant, enfin un peu même extrêmement innovant au sein du groupe Action Logement, c'est devenir propriétaire, si vous voulez, c'est pas seulement faire un investissement immobilier. Hein. Devenir propriétaire, c'est vraiment vouloir transmettre un patrimoine, c'est vouloir se mettre à l'abri au moment de la retraite. C'est un mode de vie tout à fait particulier. Et derrière, on a évidemment des aspirations légitimes hein, de stabilité, de sécurité, d'indépendance, de liberté, mais aussi de valorisation sociale. Donc, je pense que on a une aspiration forte, un désir de propriété qui reste là. Et c'est vrai que le contexte aujourd'hui de crise contrarie un peu les projets d'un certain nombre de Français, en particulier ceux qui sont ménages à revenus modestes, et que nous, bailleurs sociaux, on a vraiment une responsabilité, mais avec l'ensemble des acteurs de la chaîne, hein, y compris ce que je disais en introduction, jusqu'aux banquiers, pour justement rendre possible l'accession à la propriété. Je ne rebondis pas évidemment sur les propos de Robin, mais enfin, on voit bien que ça c'est quand même une notion extrêmement importante. Et puis, en guise de conclusion, je voudrais rappeler que la philosophie de l'ONV est assez claire. C'est notre objectif, c'est pas de vendre à tout prix des biens. C'est véritablement de vendre à ceux qui en ont envie et qui ont les moyens. Donc, il n'y a pas de vente forcée à l'ONV. Il n'y a pas tout ça. Voilà, on est vraiment dans un accompagnement, on est vraiment dans rassurer, sécuriser. Et c'est bien toute la philosophie de la vente sociale. Et c'est la raison pour laquelle nous y croyons dur comme fer et que l'ONV est devenue en 5 ans un acteur majeur et qu'il va continuer très vraisemblablement à l'être. Voilà, merci à vous.
Eh bien, merci beaucoup. À tout le monde. Merci pour ce webinaire, merci à vous quatre.
Je voulais juste peut-être avant de terminer, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de le faire. Je voudrais juste faire un remerciement particulier à Emma et à Fabienne, qui ont évidemment contribué à organiser cette émission, et je sais que c'est du travail. Voilà.
Oui. Merci. Merci beaucoup à elle. Merci aussi à nos acquéreurs, Maxime et Fabienne, pour leur témoignage. Donc, merci à vous quatre en plateau. Merci à tous. On espère que ce webinaire vous aura éclairé, en tout cas, sur le sujet de la vente sociale. Vous pouvez retrouver le replay sur le site de l'ONV, l'Opérateur National de Vente, et puis sur Radio Immo également. Et puis, pour terminer, nous vous invitons à regarder un petit clip vidéo.
You make my life still growing, bringing the sun and the sowing. Some little seeds of summer flowers, beautiful as your smile. We make this road becoming beyond the fears and tears, a common dream, a real home, where we'll say home, sweet home. Sweet.